carnet de campagne. Bonjour, une dernière des carnets en Mayenne et une annonce à soutenir un couple d'artistes, Véronique, régisseuse de profession, Julien, metteur en scène, employé de l'Opéra de Genève. Le couple a tout largué dans le Léman pour prendre possession d'une bâtisse en ruine. Nous sommes à Lignières et le logis style 17e siècle qui les attend en 2015 est à la limite de l'effondrement. Avant de monter des opéras, ce que Véronique et Julien font chaque été, ils ont monté d'abord des échafaudages et se sont lancés dans la restauration de l'édifice. Julien ajoute dans son courrier que la maison maintenant est à l'abri des vents et des orages. Elle se transforme en tiers-lieu où l'opéra et le théâtre prennent toute leur place au plus proche des habitants locaux. Les projets ne manquent pas, hein, même si la collectivité locale apparemment ne leur apporte aucun soutien, comme un espace muséographique, une activité permanente autour de l'opéra, un espace cinéma, un autre dédié aux enfants, et j'en passe. Leur mot d'ordre est d'être ouvert à toutes et à tous. L'été dernier, c'est Aïda qui a été créée dans la cour du logis avec le concours de 300 personnes passionnées, professionnelles et bénévoles. Et ces gens-là, comme le disait Brel, méritent d'être entendus. Vous allez trouver des liens avec Lignières, le château de Lignières, à nos pages d'émission. Dernier invité mayennais, Pierre Bouguier, homme orchestre et surtout auteur d'un des plus beaux défis de rajeunissement de l'humanité avec ses chorales du troisième âge, voire du quatrième. Je vous conseille la lecture de l'article de Laurent Gibovski dans les pages numériques de La Vie. Et puis nous demanderons à Sylvie Le Calvez des explications sur cet engouement actuel pour l'habitat partagé, dossier du tout nouveau numéro du magazine Village.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Pierre Bouguier, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Pierre Bouguier, Pierre Bourlingueur, Pierre qui a la bougeotte, Pierre chanteur, musicien, chef de chœur. Vous commencez déjà donc par la bougeotte à partir en 2008 au Népal.
Tout à fait, en stop depuis mon village en Mayenne, Montjean, avec le projet de colporter les chansons des écoles de mon village jusqu'à un orphelinat au Népal et surtout de ramener toute ma récolte. Le projet, c'était aussi de ramener tout ça chez moi après.
Et qu'est-ce que vous avez fait de ces graines népalaises que vous avez rapportées en Mayenne?
Ben, j'ai ramené une envie de continuer à me connaître, à prendre confiance en la vie et puis à nourrir le goût de la rencontre musicale. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à connaître mes racines en Mayenne et de plus connaître la vie de mes grands-parents, par exemple. Et puis d'aller voyager, mais cette fois-ci plus en France et notamment en Mayenne.
Oui. Alors donc, c'est votre grand-mère qui vous présente son cahier de chansons et à partir de ce répertoire, vous créez votre premier groupe, Mémé les Watts.
Tout à fait. C'était une commande à la fête de la moisson à Beaulieu-sur-Oudon. Quand je suis revenu du Népal avec toutes mes chansons, ils m'ont dit « Mais est-ce que tu pourrais venir chanter ?» Et je me suis dit « Bah, je vais aller voir ma grand-mère et je vais lui demander qu'est-ce qu'elle chantait à l'époque. » Parce que la fête de la moisson, c'est vraiment tout le monde est habillé en gens d'époque, avec les chevaux pour faire la moisson. Et c'est là que j'ai découvert un super répertoire. Et puis, en fait, j'ai continué à chanter ces chansons après cette fête. Et puis, j'ai rencontré des musiciens de Mémé les Watts. Et donc, on dit que maintenant, on fait de la musique rétro-actuelle parce qu'on revisite les morceaux en musique actuelle.
Ah oui, c'est très électrique, hein, vous, à la guitare électrique, clavier numérique, batterie, basse. Alors, pendant 10 ans, vous allez animer la chorale des chœurs ensoleillés. Et puis, tout vous mène en 2016, donc, dans le cadre du festival au Foin de la Rue, à lancer le projet « You Get the Power ». Qu'est-ce qui se passe pour vous, Pierre? Vous êtes compositeur, interprète. Vous pourriez penser d'abord à vous, à votre répertoire, à votre travail, à vos enregistrements, et vous pensez aux autres, et en particulier là aux personnes âgées.
Bah déjà, j'ai toujours continué de jouer mes spectacles jeunes publics, Pape Diboub ou Enchanté ou autre, plus les concerts. Mais c'est sûr qu'à côté, bah, quand j'ai des demandes, comme celle du Festival des Foins de la Rue, de diriger une chorale réunissant 4 EHPAD, 2 foyers logement pour faire de la musique actuelle, je me suis dit, mais ça peut être un moment super. Et quand il y a une fragilité, que quelqu'un se dépasse et s'engage dans un acte artistique et partage ça directement au public, bah moi, c'est les moments qui m'ont le plus marqué, en fait, plus qu'un moment musical parfait. Et c'est ça qui m'a donné la foi en ce projet-là.
Le résultat, Pierre, on peut le dire, est miraculeux.
Ouais, ça a été un moment bouleversant pour tout le monde.
J'insiste, mais Lève-toi et marche, c'est des personnes qui étaient dans d'énormes difficultés physiques, qui ont repris goût à la vie grâce à cette chorale, grâce à You Get the Power.
C'est sûr qu'on a vu des choses en effet miraculeuses, comme je raconte souvent Madeleine, on le voit dans le petit film documentaire qu'a fait Arnaud, où elle était en fauteuil, elle était même en état de dépression, parce que la première répétition, j'ai pas vu un sourire sur son visage. Et maintenant, donc 3 ans après, Madeleine, qui a 94 ans, elle marche. C'est pas la seule. Il y en a beaucoup qui se sont redressés, qui étaient un peu pliés, qui maintenant sont redressés. Et puis, j'ai envie de dire, les zygomatiques qui travaillent plus. Il y a eu plein d'effets incroyables, que ça soit pour les huguettes, mais aussi pour les familles qui ont redécouvert leurs parents, qui se sont mis à chanter avec eux, qui sont venus les encourager. On pensait pas pouvoir en arriver là.
Et alors, vous avez cité Arnaud Rey, réalisateur, qui fait un reportage sur vous, repéré par France 3, et maintenant, le film est diffusé, rediffusé quasiment partout en France.
Ah bah oui, et puis en replay sur YouTube, je fais de la pub parce que maintenant on a arrêté les concerts et j'invite tout le monde à aller découvrir ce moment qui est très drôle et puis il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent.
Alors il y a un DVD qui va sortir du concert Huguette the Power Rebelote, la captation du deuxième concert donné par le groupe. Et puis il y a aussi la version transgénérationnelle des seniors, des enfants, et ça donne Germaine and the Kids.
Oui, c'est le super festival des embuscades qui m'a contacté pour refaire un projet qui ressemblerait à Get the Power, mais cette fois-ci avec une classe de CE2, CM1, CM2. Et ça a été encore des grands moments. Et je vous invite aussi à aller voir sur le site de la Compagnie des Arbres et des Hommes. Il y a des extraits et il y a un petit reportage qui va très bientôt être diffusé sur les réseaux.
Puis je signale, Pierre, que vous continuez à gommer les différences, puisque vous êtes aussi en studio en ce moment pour enregistrer un album avec Mathieu Hamon, jeune autiste, que vous aviez rencontré lors d'un projet en institut médico-éducatif. Bravo, monsieur. Moi, j'applaudis, hein, tout rompre. Vous allez trouver, alors le lien vers le film et le site, c'est desarbresetdeshommes.org, mais vous allez trouver le lien à nos pages d'émission. Merci beaucoup, Pierre, et bravo.
Merci à vous et bravo à vous aussi.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
La fameuse chorale de Pierre, Get the Power, participait l'été dernier au festival Au Foin de la Rue, organisé par l'association du même nom à Saint-Denis-de-Gastine, qui propose en dehors de son festival des pratiques artistiques, des événements autour de la musique, du cinéma et des animations culturelles tout au long de l'année. Du coup, la ruralité s'en trouve transformée, elle a gagné de nouveaux emplois et puis ça rapporte quand même dans la tirelire du territoire plus de 250 000 euros. Elle est soutenue par 40 entreprises, cette association, et touche toute l'année près de 25 000 personnes au foin de la rue.com. En duplex, Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village. Le site, je le rappelle d'anglais, www.villagemagazine.fr. Vous êtes depuis les studios de France Bleu Normandie Caen pour un dossier qui paraît dans le dernier numéro, qui s'appelle « Et si on partageait le même toit ?» Il y a un phénomène en ce moment, on en parle régulièrement, d'habitat collectif, collaboratif ou coopératif, à tel point que vous recensez en tout 576 projets en cours.
Oui, on dit même maintenant habitat participatif. C'est le dernier terme parmi tous ceux qu'on peut donner, habitat groupé, habitat partagé. Maintenant, on dit plutôt habitat participatif. Et c'est vrai qu'on s'est intéressé à ce sujet parce qu'il y a vraiment une demande sur de nouvelles façons d'habiter. Alors pour trouver du foncier un peu moins cher, hein, par exemple, par un intérêt pour la construction écologique, on veut habiter autrement, dépenser moins d'énergie, penser le logement du futur, c'est souvent une des motivations. Et puis bien sûr, vivre ensemble, s'entraider, mutualiser des équipements, par exemple une buanderie, une chambre d'amis, faire garder ses enfants de façon plus facile entre les uns et les autres, voire vieillir ensemble, puisqu'effectivement, à partir de 50 ans, certains projets montés par ces personnes ont pour but de se dire, on va commencer à réfléchir à où est-ce qu'on veut vieillir demain pour pas vieillir tout seul.
Vos journalistes sont partis en quête donc d'aménagement d'habitat participatif. Exemple, au coteau de la Chaudanne. Alors, c'est à Grézieux, la montagne, il faut bien chercher, dans le Rhône. Ça a demandé aux instigateurs énormément de temps parce qu'il fallait d'abord trouver le terrain, comme vous le disiez, un terrain vendu par des agriculteurs, sauf qu'il y avait un projet communal à cet endroit. Bon, finalement, ils ont réussi à faire leur société civile immobilière d'attribution, encore une découverte. Mais là, il s'agit donc d'un des deux statuts possibles, hein. On a soit la copropriété, soit la coopérative. Là, il s'agit plutôt d'une copropriété.
Cette initiative que vous relatez, c'est intéressant parce que là, on est propriétaire à plusieurs de son logement, ce qui n'est pas simple, hein. Voilà, on peut le céder, il est à nous, alors que dans le cas d'une coopérative, on est juste propriétaire de parts et on loue son logement, certes à des tarifs préférentiels, mais c'est effectivement les deux grandes familles. Alors sur ce cas de copropriété, ça a été long, difficile. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est plutôt 4, 5, 6, 7 ans pour monter un projet comme ça, et qu'on peut partir à 7, 8 personnes, 10 personnes super motivées, et puis les aléas, là on parle effectivement de cette commune qui finalement voulait récupérer le terrain pour elle, pour faire de l'habitat social, et bien d'un seul coup, il y en a qui se lassent, qui quittent le bateau en disant on n'y arrivera jamais, et puis des nouveaux qui arrivent. Donc c'est très long, et c'est vrai que ce sont des projets qui sont difficiles à monter, beaucoup ne vont pas jusqu'au bout, mais quand ça marche, il y a toujours ce noyau dur sur lequel on peut se greffer. Si on veut que ce soit moins long pour son projet, on peut aller vers des groupes déjà constitués. Si c'est un groupe qui a presque fini son projet et où il y a eu un ou deux désistements, finalement, on peut accéder en un ou deux ans à de l'habitat partagé.
Le coteau de la Chaudanne, donc, qui existe réellement maintenant, effectivement, 20 adultes, 16 enfants, sur des principes de la solidarité, de l'intergénération et de l'écologie, c'est construction bois. Alors, l'exemple de cette année de préparation, c'était le cas pour Eco-Ravi dans la Drôme, près de Dieulefi.
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement des fois où c'est difficile, et puis il y a un problème d'accès au financement. Alors parfois, et on le voit bien dans ce cas, l'accès au financement participatif, c'est une bonne solution. Hein. Et certains projets récupèrent 200, 300 000 euros par du financement participatif, et c'est incroyable, il y a un vrai soutien. Alors il y a aussi des réseaux comme Coordination, comme Abicop, desquels on peut se rapprocher, et qui permettent effectivement de trouver des relais pour du financement, et des personnes très motivés par cette nouvelle façon de faire, qui sont prêtes à donner beaucoup, ou à prêter beaucoup plutôt, pour ce type de projet.
Vous faites bien de citer Sylvie Coordination, donc c'est le collectif d'associations qui anime l'habitat participatif en France, donc c'est habitatparticipatif.eu pour l'adresse. Puis je prends un dernier exemple, je le trouve vraiment sympa, c'est quatre retraités qui ont investi une villa Villedieu sur Indre, près de Châteauroux. C'est pas toujours évident parce que les banques ne sont pas habituées à ce type d'habitat, donc elles sont pas vraiment prêteuses, et puis les notaires sont pas toujours au fait des choses.
Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quatre dames d'un certain âge, on va dire, hein, qui ont acheté une maison déjà existante, parce que la plupart des projets sont souvent de l'habitat neuf. Et on trouvait que c'était bien aussi de montrer qu'on pouvait acquérir une maison déjà existante pour en faire un projet d'habitat partagé assez simple, à quatre personnes, même si, comme vous le dites, c'est parfois compliqué de convaincre une banque qu'on peut être quatre acheteurs ensemble. Mais ça se fait, et c'était bien d'en montrer un exemple pour que d'autres s'en emparent.
Si on partageait le même toit, le dossier du dernier numéro du magazine Village, je rappelle l'adresse villagemagazine.fr. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
La semaine prochaine, nous serons dans l'Eure avant de traverser la Haute-Loire. Et puis, en janvier, je rappelle l'Auxerre, le Pas-de-Calais, le Nord. Merci à Lucie Le Marchand qui réalisait les carnets, à Joël Levert qui leur donnait du contenu, aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume, comme aujourd'hui, YouTube Diego Hack Lopez.